Vivre FM, podcast.
11h midi sur Vivre FM,
la vie des entreprises.
Annelies Farcoa.
Inspirion, c'est une agence de communication événementielle qui conçoit et produit des événements de A à Z, du conseil à la création jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Une agence de communication, je vous le disais, mais une agence pas tout à fait comme les autres, puisque c'est une entreprise adaptée. Grégoire Decaux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur et le directeur général d'Inspirience. Vous allez tout au long de l'émission nous en expliquer les activités et nous dire en quoi cette agence de conseil événementiel est semblable et différente des autres agences. Merci à vous qui nous écoutez. Très belle journée à tous.
La vie des entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble pendant une heure dans cette émission qui, vous le savez, est consacrée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ce matin, je reçois Grégoire Decaux, fondateur et directeur général d'Inspirience, une agence conseil événementiel qui est également une entreprise adaptée. Alors, avant de parler des activités de cette structure, est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots, monsieur Decaux, ce qu'est une entreprise adaptée ?
Une entreprise adaptée... C'est d'abord une entreprise comme les autres qui a des objectifs économiques et qui emploie des collaborateurs. La vraie différence, c'est que ces collaborateurs sont en majorité en situation de handicap. On a même un minimum, on parle de 80% minimum.
Oui, c'est quand même énorme. Ouais.
C'est quand même énorme. Et oui, puisqu'on est vraiment au cœur d'un vrai projet sociétal d'insérer des personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise.
Alors, quels sont les avantages pour une entreprise ordinaire de s'adresser à une entreprise adaptée ?
Dans le cadre de la loi de 2005 et dans le cadre de leur obligation d'emploi de 6% minimum de travailleurs handicapés, les entreprises qui n'atteignent pas ces 6% ont la possibilité de faire baisser un petit peu leur contribution à GFIP en faisant travailler des entreprises du secteur protégé adapté, des ESAT et des EA. Donc c'est un moyen pour eux il y a une incidence financière à travailler avec le secteur.
Vous avez l'impression que les entreprises le savent, ça, que sont assez informées de ces avantages-là, que ça bouge un petit peu, que ça évolue.
Oui, ça bouge. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'entreprises nous appellent, donc elles sont au courant de ces dispositifs. Beaucoup les acheteurs, c'est-à-dire ceux en premier lieu dans les entreprises,
oui, qui les sont donneurs d'ordre.
Voilà. On a vu lors du récent salon du handicap et des achats responsables l'intérêt croissant de tous ces donneurs d'ordre, pas que les acheteurs d'ailleurs, des directeurs de communication, des directeurs de ressources humaines. Et on voit bien qu'ils sont à la fois mobilisés parce qu'en interne, ils ont eux-mêmes leurs propres obligations, mais on sent aussi que en dehors d'atteindre ce niveau de 6% d'emploi direct, ils sont intéressés de faire travailler et finalement de confier à ce secteur aujourd'hui des prestations qu'ils ne faisaient pas avant.
Mais c'est peut-être aussi parce que les directeurs de ces établissements-là ont fait beaucoup d'efforts dans le domaine de l'innovation, c'est-à-dire que il y a 15 ans, il y a 20 ans, on se disait les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là font des entretiens d'espace vert, de la blanchisserie, etc. Et maintenant, on trouve énormément de prestations, en fait.
Oui, et puis il y a une confusion aussi, en tout cas. Tout le monde, tout à l'heure, me demandait est-ce que tout le monde est au courant. Beaucoup ne savent pas quelle est la différence entre un ESAT, un établissement, et puis une entreprise adaptée.
Vous avez raison de le signaler. Peut-être on va rappeler aussi, parce qu'effectivement, il y a une assez grosse différence, d'ailleurs.
L'ESAT est un établissement de travail, d'accueil médical, alors que l'entreprise adaptée est une entreprise avec des contrats de travail classiques avec ses collaborateurs et des obligations économiques. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui dans les entreprises adaptées, c'est qu'on a vu aussi, c'est peut-être aussi ça le regain d'intérêt ou l'intérêt des, vous parlez tout à l'heure des espaces verts, c'est vrai qu'il y a les métiers historiques, la blanchisserie, les espaces verts.
L'emballage,
les cadeaux, qui font aujourd'hui encore le gros du chiffre d'affaires du secteur.
Ah oui, toujours.
Toujours. Mais on voit aussi apparaître des nouveaux métiers. Alors nous, on va parler certainement de communication, mais je pense aussi à Fast Road, sur le transport des personnes.
Qu'on connaît bien ici.
Que vous connaissez certainement. Voilà, on sent qu'il y a des acteurs qui se mobilisent pour offrir à des collaborateurs en situation de handicap des nouveaux débouchés.
Et peut-être que les donneurs d'ordre, justement, les responsables des achats, les chefs d'entreprise, vont aussi demander directement à des entreprises adaptées ou à des ESAT, tiens, est-ce que vous ne pourriez pas imaginer une prestation comme ça qui pourrait nous être utile ?
Ouais,
et du coup, font la montée en compétences des travailleurs.
Tout à fait. Et d'ailleurs, l'intérêt, c'est là-dessus que l'on travaille, c'est de monter de plus en plus sur la partie conseil, c'est-à-dire ne pas être simplement des prestataires, mais conseiller un DIRCOM, un directeur des achats, un DRH, responsable de mission handicap, sur ce qu'il pourrait faire avec le secteur. Et on voit bien aujourd'hui que ces personnes sont en demande et attendent vraiment de nous qu'on ne délivre pas simplement une prestation, on parlera tout à l'heure d'événementiel, mais viennent en amont les aider à conceptualiser, à formaliser un cahier des charges et d'aller bien plus loin que la seule relation donneur d'ordre prestataire.
Alors justement, si on parle principalement et plus précisément de l'entreprise adaptée Inspirience, quand est-ce que cette structure a été créée? Je crois que c'est une structure assez récente.
C'est assez récent. On a la société a 3 ans d'existence, donc c'est un projet assez récent, mais qui s'est développé relativement rapidement. On a obtenu l'agrément entreprise adaptée il y a un peu moins de 2 ans, voilà. Et donc en 2 ans, voilà, on a déjà développé notre activité. Nous sommes aujourd'hui une petite dizaine.
Ah oui, ça a été vite, effectivement.
Ça a été assez vite. Et puis on a la chance d'avoir des grands donneurs d'ordre qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Donc ça démarre bien.
On crée de la même façon une entreprise adaptée et une entreprise ordinaire, ou est-ce qu'il y a quand même un peu plus de... On nous demande un peu plus de choses, il faut être un peu plus...
Mais vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est une entreprise comme les autres, mais différente. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour un chef d'entreprise? La différence, c'est qu'évidemment, il y a un projet économique. La première chose qu'on nous demande, c'est d'être rentable,
viable.
De créer une activité qui soit rentable. Par contre, les autres aspects sociaux et sociétaux qui sont fondamentaux dans une EA, c'est peut-être ça la grosse différence. C'est-à-dire créer de l'emploi, accueillir des personnes en situation de handicap, on revoit un peu son mode de relation humaine. On fait très attention, on est à l'écoute des soucis qu'ils peuvent avoir dans leur vie professionnelle comme personnelle. On est soucieux de leur intégration, de bien leur montrer tous les aspects d'une entreprise. Je pense qu'on passe plus de temps, finalement, que dans une entreprise classique où on avance très vite, parfois trop vite, en mettant de côté un petit peu la relation humaine et la façon dont on encadre une personne. Voilà. Si moi, au bout de 2 ans, je devais faire un constat, c'est celui-ci. Autant notre métier de concepteur et de créateur d'événements, on le maîtrisait déjà avant, et on le maîtrise toujours, autant... ce qu'on demande aujourd'hui à un directeur de A, c'est vraiment d'être très présent avec ses collaborateurs, de les accompagner. Ceux qui veulent partir et repartir dans le secteur ordinaire, parce que c'est aussi une des missions qu'on peut avoir, c'est qu'une fois ces personnes ont été formées et sont restées chez nous, si elles veulent, il faut pouvoir les accompagner dans le secteur ordinaire. Et puis, les former, peut-être encore plus que d'autres, mettre des parcours de formation en place, d'accompagnement. Donc c'est vraiment cette dimension... sociale qui est très importante.
Alors, c'est pas banal, on a dit une agence de communication, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en
pas
France.
Nombreux, non.
Voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, traditionnellement, comme on le disait, les entreprises adaptées choisissent plutôt des activités plus classiques comme l'entretien d'espaces verts, le nettoyage ou encore l'emballage. Alors, vous êtes parti, vous, de l'envie de créer une entreprise adaptée ou de l'envie de créer une agence de communication?
Non, moi je suis tombé dans l'événementiel tout petit, donc je n'ai fait que ça depuis une trentaine d'années. Donc moi je suis un pur produit du monde de la communication et mon envie c'était vraiment de créer une entreprise adaptée.
Voilà. Donc vous aviez déjà créé des agences de communication?
J'ai déjà été collaborateur dans des agences, j'en ai monté moi-même une plutôt orientée sur les aspects environnementaux de notre métier. Mais là, Inspirience, c'est vraiment l'idée de d'abord mettre la RSE au cœur du projet d'une entreprise, c'est-à-dire d'assumer la responsabilité d'entrepreneurs qui aujourd'hui, sur les aspects sociaux, environnementaux, économiques, il me semble, doit être irréprochable. On parle souvent de diversité, mais le handicap, ça en fait partie. C'est-à-dire, il y a cette idée de, dans un monde professionnel assez dur, on a, nous, notre envie d'être inclusif, c'est-à-dire cette responsabilité de ne laisser personne sur le bord de la route. En tout cas, à notre échelle, d'essayer ça, c'est-à-dire de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées,
pour différentes raisons,
médicales ou autres, en sont éloignées, qui ont des accidents de la vie. Et ben, nous, notre projet, c'est vraiment d'être inclusif. Et de, alors, ce qui est nouveau, c'est de les intéresser au métier de la communication. On a des copains là-dedans, vous les connaissez certainement comme Ça Bouge, qui ont déjà fait un travail,
bien sûr.
Voilà, travail formidable, entreprise de communication. Plutôt orienté vers le graphisme et l'éditorial. Et nous, on veut aller plus loin. Et on veut aller plus loin dans un métier un peu plus difficile pour une personne qui est celui de la communication événementielle, parce que
Il faut être en contact avec, du coup, avec le public, avec, contact, avec l'entreprise.
Alors, on est en contact avec des donneurs d'ordre. On est en contact avec du public parce que l'événementiel, c'est bien un jour J, à un moment donné. On se retrouve dans une salle et on a 300-400 personnes qui viennent assister à un événement. Donc, il y a cette notion de stress à maîtriser aussi. Et là-dessus, avec Véronique, mon associé, on est très vigilant là-dessus. Mais par contre, ce qui est passionnant, c'est que ce sont des métiers multidimensions. Voilà, un chef de projet, le matin, il doit arriver à un graphiste. Ensuite, il a un client au téléphone pour résoudre ses problématiques. Ensuite, il part repérer une salle. Ensuite, il se met sur un budget, parce qu'il faut faire un budget. Ensuite, il doit chercher de nouveaux prestataires. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est d'ouvrir notre métier à des personnes handicapées, mais leur montrer que... leur donner la possibilité de faire ce métier qui est passionnant, compliqué, mais passionnant.
Alors, un petit mot sur votre associée, effectivement, puisque vous n'avez pas monté Inspiration tout seul. Elle vient du même milieu que vous, aussi, de la communication ?
Eh bien, oui, mais de l'autre côté d'une barrière, s'il y a une barrière, autant moi, j'ai fait toute ma carrière dans des agents de communication, et Véronique Fieselson, elle a fait toute sa carrière chez des annonceurs, dans des grands groupes, notamment bancaires, et c'est ça qui est intéressant. Elle a été directrice de communication. Et ce qui est intéressant, c'est notre complémentarité.
Oui, voilà. Du coup, vous avez vraiment les deux volets.
Elle a une très bonne connaissance du monde de l'entreprise, puisqu'elle en vient. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. C'est le monde des agences a ses codes, ses modes de fonctionnement, et nos donneurs d'ordre aussi. Et ce qui est intéressant, c'est le croisement des deux.
Alors, vous êtes associés tous les deux. Vous avez monté Inspirience il y a 3 ans, vous nous le disiez. Puis, petit à petit, vous avez embauché différentes personnes jusqu'à arriver à une dizaine de personnes aujourd'hui. On va parler du profil des personnes qui travaillent chez Inspirience dans la suite de l'émission. Et pour l'instant, on fait une petite pause.
Vous écoutez La Vie des Entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Dans quelques minutes, vous retrouverez votre chronique Les 3 minutes pour l'emploi. Mais pour l'instant, nous sommes dans La Vie des Entreprises, toujours en compagnie de Grégoire Decaux, fondateur et directeur général d'Inspirience. Alors, comme on est très curieux dans cette émission, surtout moi, je suis très curieuse dans cette émission, j'aimerais bien savoir d'où vous venez et surtout, parce que vous nous avez dit que vous avez travaillé dans des agences de communication, vous en avez monté quelques-unes, mais quel a été ce déclic, ce moment où vous vous êtes dit, est-ce que c'est une question d'âge, un moment où on a envie de donner du sens à sa vie, est-ce que c'est une rencontre, c'est quoi?
Alors il y a un peu de tout ça, il y a aussi une dimension, donc il y a un peu de tout ça, oui, l'âge, je ne sais pas si c'est, on s'apaise au bout d'un moment et on cherche un peu plus de sens dans sa vie, mais certainement ça. Alors il y a un élément plus stratégique, c'est que j'ai travaillé il y a quelques années avec d'autres acteurs de la communication sur la traduction d'une norme qui s'appelle la norme ISO 26000, sans rentrer en détail, c'est la norme, c'est la RSE.
Vous avez perdu la moitié de notre
C'est la RSE c'est le développement durable pour les entreprises. Bref. Et en faisant ce travail assez technique pendant 2 ans, je me suis aperçu que le sujet du handicap était relativement absent de nos discussions, pas tant sur l'accessibilité des sites, mais sur l'accès à l'emploi dans les agences de communication de personnes en situation de handicap. Donc j'ai creusé ce sujet, ça m'intéressait. Et comme ça fait un bout de temps que moi, le développement durable, au sens large, m'intéresse, comment faire pour que on en évolue dans un monde plus solidaire, plus respectueux de l'environnement, ce sujet, ça m'intéressait, je me suis dit, tiens, mais c'est aussi la responsabilité d'un directeur d'agence de communication de faire travailler, de faire collaborer dans toute sa diversité des collaborateurs, dans toute leur diversité. Et puis j'ai monté ce projet, ça nous a pris à peu près 1 an, et c'est venu comme ça, donc finalement avec un lien assez naturel avec mes ambitions et aujourd'hui le fait, en fait ça vient aussi après une trentaine d'années d'expérience dans les agences de com, on a envie d'aller un peu plus loin.
Alors donc, vous avez commencé à embaucher, on l'a dit, avec votre collaboratrice Véronique, plusieurs personnes. Vous aviez un profil type, vous vous êtes dit au départ, on va embaucher tel type de handicap, ou est-ce que vous vous êtes dit, on a besoin d'un graphiste, on a besoin d'un comptable.
En fait, dans une entreprise où vous avez besoin d'une agence de com, ça sera un comptable demain, parce que là... Je passe une petite annonce, nous recrutons un assistant ou une assistante administrative. Donc oui, ça
tombe
bien.
Ah, j'ai peut-être quelqu'un, tiens. Voilà.
Non, mais en tout cas, on a besoin, comme dans une entreprise classique, d'avoir...
C'est quoi les métiers, alors, justement?
Les métiers, chef de projet, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. C'est le pivot d'une agence de communication. C'est lui qui est à la fois en relation...
Il fait un peu de tout.
Il fait un peu de tout. C'est le couteau suisse, on va dire. Hein, il est à la fois en relation avec le client qui lui confie les événements et puis il est en charge de les produire. Alors, il le fait pas tout seul. Hein, une agence de communication, c'est fait travailler une équipe. Alors, par exemple, un chargé de production qui, lui ou elle, va être plus en charge du budget ou d'aller recruter des freelances ou trouver le bon prestataire, la bonne salle. Bon, voilà, les bonnes personnes qui vont travailler avec nous. Et puis, dans une agence, il y a aussi, on fait de la communication des aspects artistiques, graphistes, web designers, et puis des métiers de l'animation, de l'image animée. Et puis, on va aussi sur les métiers du digital, les métiers un peu plus nouveaux. Nous, on travaille pas mal sur des nouveaux logiciels comme le Prezi. Le Prezi, c'est une alternative plus créative au PowerPoint que tout le monde connaît. Mais en tout cas, on voit bien que, et là, c'est aussi la demande de nos clients. Hein, on est sur le marché de la communication événementielle. Nos clients nous demandent des idées nouvelles. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on recrute aussi, qu'on forme des personnes aux aspects artistiques de demain. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en dehors des personnes qui sont dans l'agence en contrat permanent, on va faire aussi travailler un écosystème, un photographe, un réalisateur de films, un preneur de son. Ici, on est dans un studio radio, mais peut-être qu'un jour, on aura besoin d'un ingénieur du son pour venir sur nos événements. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'autour de la base de l'agence de communication entreprise adaptée, il y a un écosystème de freelance, de prestataires, de sous-traitants. Et nous, dès qu'on le peut, on fait travailler aussi des acteurs du secteur protégé adapté.
Alors, dès que vous le pouvez, mais ça n'est pas obligatoire.
Ce n'est pas une obligation. Alors ça va peut-être le devenir demain, et certains de donneurs d'ordre nous le demandent. Quand on fait appel à un traiteur pour un événement, aujourd'hui, on nous dit de plus en plus, essayez de faire entrer dans votre appel d'offres des personnes du secteur protégé adapté.
Mais quand vous faites appel à un photographe freelance?
Eh ben, il y en a, d'abord.
Oui.
Mais
bien sûr,
évidemment.
Bien sûr.
Donc là, on cherche, on va sur Internet. Si on ne connaît pas, on appelle d'autres agences, d'autres acteurs. Et comme ça, on s'est constitué, nous, un petit pool de 5-6 photographes. Et l'idée, c'est demain aussi de développer ça. Parce qu'il y a un aspect essentiel. Il y a aussi certainement, dans notre métier, puisque c'est un métier assez récent, des personnes qui n'osent pas se déclarer, qui n'osent pas faire la reconnaissance de la fameuse RQTH et demander leur orientation en secteur ordinaire. Donc on lance ici un appel là, comme dans les entreprises aujourd'hui, le gros travail dans les entreprises, c'est faire que les gens reconnaissent et aillent voir.
Ça reste quand même assez compliqué, effectivement.
Ça reste assez compliqué, voilà. Mmh. Mais de faire ce pas, ça fait peur aux gens, voilà, la discrimination, ils ont toujours peur d'être catalogués, d'être mis de côté. Dans nos métiers de la communication, on a aussi ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans le secteur du son, de la lumière, de la vidéoprojection, finalement, de faire le pas, d'avoir la reconnaissance et de faire bouger les choses, c'est quelque chose de compliqué.
Et c'est vrai que le domaine de la communication, c'est un peu comme le domaine des médias, tu es très proche d'ailleurs, et puis peut-être aussi le domaine du luxe, on se dit que ce sont des milieux élitistes. Donc, les personnes handicapées se disent, mais c'est pas pour moi, quoi. Je vais être paumée, je vais être perdue.
Et puis, on touche à l'image.
En plus,
voilà.
Ouais.
Donc, il y a cette peur-là aussi, mais même du côté des donneurs d'ordre. Hein, autant il est aujourd'hui très facile, on parlait de la blanchisserie aujourd'hui ou des espaces verts, pour un directeur des services généraux d'aller confier l'entretien d'un espace vert à une entreprise adaptée. Les enjeux, ils sont des enjeux qualité, mais il n'y a pas des enjeux fondamentaux sur la vie de la société ou sur son image. Quand vous faites appel, vous organisez la convention des cadres annuels de l'entreprise ou la convention sur un plan stratégique, là, il y a des enjeux. Il faut qu'on soit prêt, il faut que ça soit à l'heure, il faut que ça soit dans la bonne gamme de prix, avec un excellent niveau de qualité. Et un événement, ça doit commencer à l'heure. S'il est prévu que ça commence à 10h, ça doit commencer à 10h, comme une émission de radio. Et si ça commence pas à 10h, c'est tout le château de cartes qui s'écroule derrière. Donc on comprend aussi que c'est un cheminement pour les DIRCOM notamment de faire travailler des entreprises.
Mais on dit que ça n'est que le premier pas qui compte. Une fois que c'est fait, c'est fait.
Certainement.
On continue à parler d'une expérience dans la suite de l'émission et on parlera plus spécifiquement justement des prestations que vous proposez. Mais pour l'instant, c'est un petit détour vers les 3 minutes pour l'emploi. Une question, une réponse de notre coach. Christian de Paris nous a laissé un message sur notre page Facebook. Il nous dit qu'on lui propose un entretien par téléphone parce qu'il n'est pas très à l'aise avec les échanges téléphoniques. Thomas Welch, vous êtes l'auteur de Recherche d'emploi oubliée, les méthodes de papa. Comment vous pouvez conseiller Christian pour qu'il soit à son avantage ?
Alors déjà, il faut savoir qu'un entretien téléphonique se prépare vraiment de la même manière qu'un autre entretien plus classique. Donc il faut vraiment se préparer avant l'entretien, c'est-à-dire avoir fait ses petites recherches sur l'entreprise, sur le poste, préparer une présentation et s'entraîner pour être à l'aise lors de l'échange téléphonique. Donc vraiment, il faut déjà pas croire que parce que c'est par téléphone, c'est plus facile qu'un entretien physique de visu. Donc ça se prépare de la même manière. Mon conseil, c'est aussi de s'entraîner avant. C'est-à-dire une fois qu'on a préparé toutes ces petites informations et le message qu'on veut faire passer lors de l'entretien, c'est s'entraîner chez soi, s'enregistrer, s'écouter, se chronométrer, enfin vraiment être à l'aise pour que le message qu'on fasse passer soit le plus clair possible. Si on est bien préparé avant, l'entretien se passera de manière très agréable et on sera détendu et serein pour que l'échange soit constructif et positif. Donc vraiment, ça se prépare de la même manière qu'un entretien. Il ne faut pas être plus détendu, il ne faut pas penser que parce qu'on n'est pas visible, parce qu'on est chez soi, on peut être plus détendu. Non, il faut vraiment se consacrer pleinement à l'entretien, c'est-à-dire aussi être dans une pièce au calme, ne pas faire d'autres choses en même temps et être pleinement concentré. Ensuite, ce qui est spécifique dans l'entretien téléphonique, c'est que forcément, l'interlocuteur n'entend uniquement notre voix. Mmh. Et du coup, il y a un travail aussi spécifique là-dessus. Il faut vraiment avoir une voix qui soit la plus agréable possible. Il faut aussi parler clairement, travailler sur sa diction, sur le rythme, ne pas avoir une voix trop monocorde, de sorte à ce que le recruteur puisse se dire « il a l'air effectivement sympathique ». Et enfin, un dernier conseil, je pense, qui est intéressant, c'est ce qu'on apprend de manière très basique à n'importe quel téléconseiller ou commercial par téléphone, c'est le sourire. Le sourire s'entend réellement au téléphone. J'imagine qu'à la radio, vous appliquez aussi cela. Donc vraiment, lorsqu'on sourit, ça s'entend. Et donc, pendant l'entretien, pensez à garder le sourire et l'interlocuteur verra que vous êtes vraiment de bonne humeur et très dans un état très positif.
Alors effectivement, une dernière question, Thomas, très rapidement. On peut faire un entretien téléphonique par téléphone en pyjama ? Ou est-ce qu'il faut se mettre comme si on allait en entretien normal, c'est-à-dire en tailleur ou en costume-cravate ?
C'est une bonne question. Je pense qu'à la limite, si on l'a préparé de la même manière qu'un entretien physique, on peut rester en pyjama si on se sent bien dedans. Mais en tout cas, il faut être dans un état d'esprit sérieux. C'est-à-dire que ça ne va pas être plus facile parce que c'est par téléphone. Et surtout, ne pas oublier qu'en général, l'entretien par téléphone n'est qu'une présélection vers un entretien réel. Donc finalement, c'est vraiment le marche-pied vers une entrée dans l'entreprise. Donc, il faut absolument l'assurer.
Grégoire, je ne sais pas ce que vous pensez de cette réaction de notre coach. Effectivement, est-ce que vous, quand vous faites passer des entretiens, vous les faites d'abord passer par téléphone ou est-ce que vous demandez aux personnes de venir vous voir directement ?
Je ne sais pas si je conseille de rester en pyjama, mais non, en tout cas, c'est vrai qu'il y a deux choses. Le sourire, c'est vrai, ouais. Que même au téléphone, ça s'entend. Derrière le sourire, il y a la motivation. Et puis, il y a l'envie de séduction, parce que c'est un acte de séduction quand même aussi, être recruté dans une entreprise. Et puis moi, je dirais, n'ayez pas peur. Franchement, ça ne coûte rien de tenter d'appeler, et même si c'est pas compliqué comme exercice, je pense que notamment dans les entreprises adaptées ou dans notre secteur, il y a beaucoup de bienveillance. Donc, on sera toujours à l'écoute de ce que la personne pourra nous apporter. Voilà.
Et puis, peut-être plus on en passe des entretiens d'embauche, et plus on est aguerri, ouais, et plus on est à l'aise.
Oui, tout à fait. Alors, il y aura beaucoup de déchets, c'est sûr. Hein, mais ça, c'est le propre aujourd'hui du marché du travail, encore plus pour une personne handicapée. Mais c'est que voilà, le marché est tendu, compliqué, et nous, on en sait quelque chose. On a beau avoir créé une entreprise récente, c'est pas facile tous les jours. Donc, il faut persévérer, et ça va marcher.
Merci sur ce, de ce bon conseil. On fait une pause musicale, on se retrouve vite.
Vous écoutez La Vie des Entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Vie des Entreprises, si vous nous joignez à l'instant, sachez que nous sommes toujours avec Grégoire Decaux, fondateur et directeur général de l'agence conseil événementiel Inspirience. Je vous ai pas posé la question, ça vient d'où Inspirience ?
Ah, Inspirience, c'est un mélange de l'inspiration, de l'émergence d'un monde nouveau et de l'expérience. Voilà, donc Ça n'est, on ne sait pas trop comment ça n'est un nom.
C'est très joli, ça n'existe pas.
Voilà, donc ça n'existe pas. Voilà, et puis ça nous faisait un peu rêver. Donc,
et on retient bien en plus.
Voilà.
Alors vous accueillez donc, vous nous l'avez dit, des personnes qui sont en situation de handicap et dont la santé peut parfois se dégrader, hein, on le sait, surtout les personnes qui ont des maladies invalidantes. Quelle est votre politique en matière de maintien dans l'emploi? Peut-être que vous n'avez pas encore vraiment, vous avez 3 ans d'existence, vous avez 10 salariés, vous n'êtes pas forcément une politique très officielle.
Oui, alors c'est vrai qu'on est tout récent, donc maintien dans l'emploi, c'est surtout pour nous en ce moment le recrutement, voilà.
Oui.
Donc, nos collaborateurs, le plus vieux de nos collaborateurs dans l'entreprise, il est là depuis 2 ans, même pas, 1 an et demi. Donc, on est tout jeune de ce côté-là. Et puis, on verra, au fil du temps, quelle politique on mettra en place pour soit maintenir chez nous nos personnes, parce que c'est quand même notre souhait, hein. Notre ambition, c'est d'être une agence qui voit loin, donc de garder le plus possible nos collaborateurs s'ils se sentent bien chez nous et si on a réussi à nous adapter à leur handicap.
Et comme vous le disiez, en plus de les faire monter en compétences, en les formant petit à petit, parce qu'on le sait, hein, on n'arrête pas de le dire partout, dans cette émission, dans cette radio en général, il faut se former tout au long de l'année,
ouais,
pour éviter les ruptures, pour éviter les inaptitudes, et encore plus quand on est en situation de handicap.
Tout à fait.
Alors, concrètement, les activités d'inspirance.
Alors, les activités d'inspirance, nous sommes une agence qui considère que, donc je reviens sur ce thème un peu barbare, la RSE, les entreprises ont une responsabilité en termes environnementaux, économiques, sociétaux. Et ben nous, notre job, notre mission, c'est d'aider ces entreprises à communiquer sur ces engagements. Voilà, comment communiquer quand on transforme l'entreprise, comment communiquer quand on a une politique handicap, une politique diversité, comment le faire savoir, communiquer sur les aspects environnementaux. Donc on est vraiment, nous, sur ces aspects, et donc cette communication, on la transforme en événements, que ce soit des événements. Alors, on a nous 3 grands types d'événements, des événements de communication interne. Hein, donc là, ça s'adresse à des collaborateurs d'entreprise.
Qui veulent sensibiliser les collaborateurs à ces questions-là,
voilà,
justement.
Un patron d'une boîte qui veut sensibiliser ses collaborateurs, par exemple au handicap, réunit ses collaborateurs. Ça peut être un petit groupe comme un très grand groupe. Et nous, on s'occupe de mettre en scène cette communication, cet événement. On fait aussi des communications qui sont plus externes. Hein, et là, c'est de la communication, ce qu'on appelle institutionnelle corporate. Donc là, c'est l'entreprise qui parle, par exemple, à des journalistes. Ou à des actionnaires, ou à leur écosystème. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les événements plus corporate. Et puis, 3e volet, c'est des événements grand public, où là, on va toucher directement le grand public, c'est-à-dire vous, moi, directement dans la rue ou dans d'autres circonstances.
Alors, vous communiquez auprès des entreprises sur le fait que vous êtes une entreprise adaptée, que vous employez plus de 80% de personnes en situation de handicap?
Alors, oui et non.
Non,
c'est-à-dire que... Alors évidemment, d'abord, des donneurs d'ordre nous appellent aussi pour ça. Voilà, donc à ce moment-là, évidemment, on communique et on met en avant notre spécificité. Mais nous nous attachons beaucoup avec Véronique de dire d'abord, nous sommes une entreprise comme les autres, même si nous sommes différents, et nous sommes d'abord là pour organiser vos événements comme vous le feriez avec une autre agence du secteur ordinaire. Et là, notre ambition, elle est bien claire. Nous voulons, et peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, si notre ambition ultime, c'est d'être une entreprise comme les autres, avec des collaborateurs en situation de handicap, mais pas forcément entreprise adaptée. Voilà, notre job, il est bien d'être inclusif, et donc de mettre des collaborateurs handicapés au même niveau que les autres, leur donner les mêmes responsabilités, et de délivrer des événements avec le même niveau de qualité qu'une entreprise normale ou ordinaire. D'ailleurs, j'aime pas trop ce
normal ordinaire.
Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Si aujourd'hui un secteur ordinaire, eh ben nous sommes le secteur extraordinaire. Parce que ce qu'on fait tous les jours, c'est quand même quelque chose. Enfin, nous, surtout les collaborateurs, de venir bosser avec un handicap, avec une difficulté professionnelle, mais qui veut dire certainement personnel, c'est un combat quotidien. Et franchement, eux, ce qu'ils font, c'est plutôt extraordinaire.
Voilà. Alors j'imagine que ça doit être très agréable pour vous en tant que directeur quand justement une entreprise découvre à la fin de la prestation que cette prestation qui a été super bien faite, qui a été faite comme il l'avait demandé, a été faite par des personnes en situation de handicap.
Ouais, c'est
oh bah la vache, ils ont fait du bon boulot quoi.
Bah pour eux c'est le plus beau remerciement, voilà. Mais ça nous est arrivé encore il y a pas longtemps, hein. Voilà. Alors donc c'est mais le travail n'est pas bon, ça c'est le côté j'allais dire tout rose des choses. Mais ce qui est pas facile aussi, c'est d'arriver chez des annonceurs, d'expliquer notre projet. Et là, de sentir le mouvement de recul.
Vous le sentez quand même.
De la personne qui dit. Et qui, dans sa tête, se dit hop, 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 attention, handicap, ça voudra dire.
Ça voudra dire retard,
ça voudra dire moins bonne qualité, ça sera plus cher. Ouais. Donc, voilà. Ça avance, hein, les a priori tombent, mais voilà, on n'est pas non plus des bénis oui-oui, on sait très bien que c'est compliqué et qu'il y a encore un énorme chemin.
Alors, quels sont les projets de développement dans les mois, dans les années à venir? Est-ce que vous avez déjà des projets en tête ou est-ce que pour l'instant vous vous contentez, c'est pas ça, mais vous avez beaucoup d'appels d'offres à répondre.
On a des appels d'offres à répondre et puis on a à convaincre encore aujourd'hui, parce qu'on a encore une jeune agence, de nous faire confiance. Et là, je lance un appel, mais je voudrais dire à tous les directeurs de com, à tous les DRH, les directeurs d'achat, faites-nous confiance, parce que je pense que c'est un chemin commun. Voilà. On arrivera à une société plus inclusive si, évidemment, des entreprises adaptées, des ESAT se développent, créent de l'emploi, mais on a aussi besoin des donneurs d'ordre. Donc il faut ne pas avoir peur de nous faire travailler, donnez-nous notre chance. On a besoin d'avancer ensemble, de faire monter en compétences ensemble nos personnels, et on est dans un univers concurrentiel et commercial. Donc si on n'a pas de donneurs d'ordre pour nous faire travailler, on n'y arrivera pas. Donc à nous de faire nos preuves, de nous professionnaliser, et je crois que c'est ce qui est le cas en ce moment, mais je lance un appel aussi à tous ceux qui aujourd'hui ont peur de faire appel au secteur protégé, faites-le, développez vos marchés, faites-nous confiance, on sera au niveau.
Est-ce qu'il y a des exemples là d'entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, avec lesquelles vous avez développé des projets qui pourraient être parlants à nos auditeurs?
Bon, il y en a quelques-uns. Alors on a, ça me permet de remercier ceux qui nous accompagnaient depuis le début, par exemple le groupe Generali. Voilà, on a à l'initiative de Generali créé une, on va dire un terme anglais, learning expedition. L'idée c'est au lieu de faire venir à un endroit des personnes pour écouter un discours sur le thème de l'innovation, l'idée c'est d'emmener pendant 24 heures un groupe de cadres ou de managers d'entreprise vivre une expérience dans une ville de France, aller à la rencontre de ceux qui innovent dans termes technologiques, sociétal, social, et pendant 24 heures, par petits groupes, de vivre l'expérience de rencontrer ces personnes. On est allé par exemple à Bordeaux, on est allé visiter le plus grand parc éolien qui est naissant à Bordeaux, à Sestas. On a rencontré les personnes de l'écosystème Darwin à Bordeaux, qui est un des plus grands tiers-lieux écosystèmes de France. Voilà.
Voilà vous, un type d'événement. Boulot, pardon, c'est d'organiser.
Boulot, c'est d'organiser de A à Z ça. D'accord. De détecter les personnes qu'on va les rencontrer.
Oui.
Et de nous occuper du package complet de cet événement, de A à Z, de la conception jusqu'à la fin. Voilà un exemple d'un événement un peu original, parce que c'est pas commun. Mais on est aussi là pour ça. Le secteur de la com événementielle est très beaucoup sur l'innovation. Voilà. Alors, être entreprise adaptée d'agent de com, c'est innovant. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de délivrer des éléments innovants pour nos clients. Voilà.
Bien sûr, parce que le directeur de l'entreprise, ce qu'il veut, c'est son projet, que son projet à lui soit...
On est bien d'accord, au final, on aura fait travailler une entreprise adaptée, mais ce qu'on doit délivrer, c'est bien un événement. Et là, qu'on soit entreprise adaptée ou pas, il faudra bien le réaliser. Voilà.
De quoi vous êtes le plus fier depuis que vous avez monté cette entreprise?
Le plus fier, c'est de voir tous les matins nos collaborateurs venir travailler.
Et s'épanouir professionnellement.
Et quand on connaît, pour certains, enfin, ils ont tous une difficulté, hein, plus ou moins grande, et quand on connaît certaines difficultés, moi je tire un grand coup de chapeau à ces personnes. Voilà, tout simplement. Alors nous on crée le cadre de travail, hein, mais enfin, le plus gros du job c'est eux qui le font. Et on parle beaucoup en ce moment de qualité de vie au travail.
Oui.
Et moi je suis persuadé que la plus grande chance qu'on peut se donner à ces personnes de s'en sortir, c'est de venir bosser. C'est d'avoir un travail de tous les matins. C'est parfois difficile, il faut se forcer de venir travailler, mais de créer le cadre de travail, de les accompagner, de les former, de leur donner une perspective long terme, Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Voilà. Et c'est vrai que ça, on en est fiers de voir pour certains voilà, venir être contents de venir bosser. Voilà.
Je pense que vous aurez donné envie à tous nos auditeurs de venir travailler chez vous.
J'espère.
Vous recrutez actuellement ?
Ben, tout à fait. Voilà,
vous avez
on est toujours.
La possibilité d'écarter vos bureaux pour.
Non, mais
plus
on est d'abord toujours en alerte parce que c'est aussi ça notre mission, hein, que ce soit pour des freelances ou des personnes en CDD ou CDI. Et voilà, sur notre site internet aujourd'hui, il y a deux postes qui sont ouverts, un poste de chef de projet et un poste, je disais tout à l'heure, d'assistant administratif. Voilà. Et peut-être d'autres demain.
Donc on ira voir sur votre site inspirance.fr.
Voilà.
Merci beaucoup Grégoire Decoux d'être venu nous voir ce matin. Merci Alim d'avoir réalisé cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Si vous avez pris l'émission en cours de route, si vous souhaitez la réécouter et même la podcaster, tout est possible sur le vivrefm.com, rubrique La vie des entreprises. Bonne journée à tous à l'écoute de Vivre FM. Dans quelques minutes, les infos, puis la suite de vos programmes. À très vite.